Le journal Loïc Barrière. Un Palestinien tué à Jenin lors d'une opération de l'armée israélienne 2 jours après l'attaque de Tel Aviv. Après 2 ans de restrictions en raison du Covid, l'Arabie Saoudite annonce 1 million de pèlerins étrangers pourront participer au pèlerinage à la Mecque. À l'occasion du Ramadan, entretien avec Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. Nous écouterons aussi Zakaria Kedidi, fondateur de l'association Cité Solidaire 92, association qui distribue des repas aux sans-abri à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Enfin, les Français voteront demain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ouverture des bureaux de vote dès 8h du matin. Un Palestinien tué et 5 autres blessés aujourd'hui à Jenin, c'est ce qu'affirme le ministère palestinien de la Santé. Une opération de l'armée israélienne a été lancée dans le camp palestinien d'où était originaire l'auteur de l'attaque de jeudi à Tel Aviv. Une attaque qui a fait 3 morts et plusieurs blessés. Ce regain de tension a lieu alors que les Palestiniens commémoraient aujourd'hui le massacre de Deir Yassin le 9 avril 1948, des membres de l'Irgun assassinaient des dizaines de civils palestiniens. Cet épisode sanglant allait devenir l'un des symboles de la Nakba. 2 ans après l'apparition du Covid-19, l'Arabie Saoudite autorise la présence 1 million de pèlerins étrangers à la Mecque. En 2020, au début de la pandémie, 1 millier de personnes seulement avaient pu participer au pèlerinage à la Mecque. 60 000 s'étaient rendus dans la ville sainte l'an dernier. À l'occasion du Ramadan, regard sur les activités de la Fondation de l'Islam de France, quel message souhaite adresser son président Ghaleb Bencher à l'occasion de ce mois sacré? On l'écoute.
Le message que nous souhaitons, nous, Fondation de l'Islam de France, adresser aux musulmans et aux non-musulmans, d'abord aux fidèles musulmans qui observent cette pratique, l'observance du jeûne, est exigeante, mais il y a une élévation spirituelle réelle en ces temps incertains de guerre sur notre continent et aussi de tensions réelles dans notre propre pays à la veille d'une élection majeure dans notre vie démocratique. Même si certains voient que notre démocratie est devenue par trop fébrile. Donc, c'est un message à la fois de patience, d'endurance, de fraternité au-delà des mots, de bonté, de miséricorde, et aussi un message de solidarité pour l'être humain, quel qu'il soit. Je ne cesse de rappeler les 3 dimensions inhérentes au jeûne lorsque ce jeûne est voulu comme une sorte de sacrifice volontaire. D'abord une éducation de vie, une école de vie, une maîtrise de soi, une éducation de l'âme. Et puis il y a une dimension transversale dans la cité, celle de la générosité, du partage, le fait de penser à autrui, a fortiori à celui qui n'a pas choisi de jeûner et pour qui le jeûne et la faim sont imposés. Il y a aussi un temps de recueillement et de ferveur et de prière. Et la 3e dimension est celle de l'élévation spirituelle et une approche éthique. Il y a une volonté aussi de ne pas mélanger jeûne et idées pernicieuses. On ne peut pas ourdir un complot en jeûnant. On ne peut pas nourrir des intentions belliqueuses contre autrui tout en jeûnant. Donc il y a dans la pratique du jeûne une véritable ataraxie, au sens d'absence de troubles intérieurs, d'une pacification de l'âme et d'un apaisement et d'une sérénité. Voilà, globalement, le message que je souhaite adresser aux musulmans et par-delà aux non-musulmans, de saisir cette occasion d'intériorité pour laisser place à plus d'entraide, de solidarité, de compréhension entre les êtres humains.
Pouvez-vous nous faire part des actions menées par la Fondation de l'Islam de France durant le mois du Ramadan, Khaled Bencher ?
Il se trouve que notre institution, la Fondation de l'Islam de France, est plutôt à vocation éducative, culturelle et de médiation sociale. Donc notre programme sera axé prioritairement sur l'éducation. Donc nous continuerons notre université populaire mixte cette fois, itinérante physiquement, allant de ville en ville, mais aussi digitale, transmise à travers les réseaux sociaux et les moyens technologiques. Et nous avons un certain nombre, au moins une fois par semaine, à parler des vertus du jeûne, d'élévation spirituelle aussi. Il y a un programme prévu pour le don d'organes, parce que la dimension de solidarité est importante. D'aucuns parmi les musulmans sont encore réticents, heureusement moins nombreux, à consentir au prélèvement d'organes chez les défunts et même pour eux-mêmes. Et nous voulons aussi sensibiliser les musulmans sur cette question. Il va y avoir une édition spéciale autour de la figure de l'émir Abdelkader comme une figure médiatrice de réconciliation entre les peuples français et algériens, et par-delà une figure de dialogue à la fois interreligieux et un exemple d'humanisme. Il y aura aussi d'autres éditions durant ce mois sacré.
Khaled Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, au micro de François-Xavier de Calonne. En Tunisie, un tribunal militaire a condamné Amer Ayad, présentateur de la chaîne Zitouna TV, à 4 mois de prison pour offense envers le chef de l'État. Le journaliste avait dénoncé certaines décisions de Kais Saied. Le journaliste reste en liberté en attendant une décision sur le recours qu'il a déposé devant la cour d'appel. Le ministre français des Affaires étrangères dénonce un crime contre l'humanité après le bombardement de la gare de Kramatorsk qui a fait au moins 50 morts en Ukraine. Jean-Yves Le Drian réclame une enquête de la Cour pénale internationale. Et puis en Russie, le ministère de la Justice a fermé les bureaux locaux d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Au total, 15 ONG ont été exclues en Russie au motif qu'elles violent la loi russe, des ONG qui critiquent les atteintes aux droits de l'homme par l'armée russe en Ukraine. Coup de projecteur sur l'association Cité Solidaire 92, association qui fournit des repas aux sans-abri à Paris et dans les Hauts-de-Seine. On écoute son fondateur, Zakaria Kedidi.
L'association, elle a commencé déjà entre 3 potes, donc on était 3. Et c'était un soir de décembre, on s'était dit pourquoi pas faire une maraude. Donc entre potes, on met 50 euros chacun et on fait une petite maraude. Et en fait, la première maraude, on a mis sur les réseaux, et tout de suite, ça a pris de l'ampleur, en fait. Et donc, tout de suite, oui, moi, j'ai envie de participer, oui, c'est quand la prochaine maraude, moi, je veux donner, j'ai des vêtements, j'ai de l'alimentaire, j'ai de l'argent à donner. Et en fait, petit à petit, il y a un engouement qui s'est créé, et à partir de là, on s'était dit, pourquoi pas faire une asso, en fait. Ça marche, d'accord, ça marche pas, tant pis, mais au moins de se constituer en asso. Et donc au début on était 3, on distribuait 20 kits alimentaires. Et aujourd'hui, on distribue 120 kits alimentaires chaque samedi. Donc depuis maintenant, ça va faire bientôt 4 ans.
Et donc, vous allez dans quelle ville ?
Alors on est sur 4 zones. Donc on est sur. Nous on est situé à Nanterre. Donc au début, quand on a commencé à nos maraudes, on s'était dit on va d'abord faire sur Nanterre, mais en fait, comme à Nanterre, il y a l'hôpital et le CASH, donc le centre d'hébergement d'urgence, en fait, il n'y avait pas beaucoup de sans-abri. Donc en fait, on a commencé à partir sur Châtelet, Aubert, Palais-Royal et Saint-Lazare. Le but, c'est d'aller tout le temps dans les mêmes zones. On avait déjà commencé à faire une maraude, par exemple, à Porte de la Chapelle. Mais malheureusement, en fait, quand on va à Porte de la Chapelle, tout le monde saute sur nous et il n'y a pas de lien qui se crée. Et nous, le but, c'est vraiment de créer du lien avec ces personnes-là. Et en fait, maintenant, bah, les personnes, on les connaît, ils nous connaissent, ils nous font confiance. Maintenant, ils ont... C'est plus simple pour eux qu'au début. Au début, voilà, ils avaient peur. Ils disaient, mais qui sont eux? C'est des jeunes. Est-ce qu'ils vont nous agresser ou pas? Alors que maintenant, voilà, on prend des photos avec eux, on rigole avec eux, on fête des anniversaires avec eux. Donc, c'est vraiment l'important, c'est vraiment de créer du lien avec ces personnes-là. Pas juste de distribuer à manger.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de certaines personnes que vous aidez?
Malheureusement, il y a, par exemple, il y a une personne qui est obligée de faire la manche, qui est sans abri, mais son enfant ne sait pas. Donc, en fait, il fait la manche pour payer la pension alimentaire. Donc déjà, c'est compliqué pour lui, mais il doit payer la pension alimentaire pour son enfant. Et en fait, une fois par mois à peu près, il va pour se laver et aller voir son fils comme si de rien n'était, en fait. Franchement, il y a vraiment de tout. Il y a des hommes, il y a des femmes, et pour les femmes, c'est très compliqué. Vraiment, voilà, on discute avec elles, et voilà, il y a énormément de viols, en fait. C'est un monde qu'on connaît pas, que presque on ne veut pas connaître, mais derrière tout ça, en fait, il y a des vraies histoires. L'autre jour, on parlait avec une sans-abri, elle s'était fait violer dernièrement. Donc maintenant, elle a un côté, toujours agressif parce qu'elle a peur de l'autre, en fait. Donc, c'est même nous, les premières fois, elle avait peur de nous, mais à force de nous revoir chaque samedi, en fait, elle a commencé à se confier. Et c'est là où elle nous disait, je me suis déjà fait violer plusieurs fois, donc maintenant, voilà, j'ai toujours un couteau sur moi, j'évite les sous-sols. Et ça nous, en tant que jeune, en fait, on se mange une claque. On se mange une claque parce que, voilà, c'est pas des choses qu'on raconte à la télé ou autre.
Et donc ça a commencé il y a 4 ans déjà.
C'est ça. Et à côté de ça aussi, c'est pour valoriser aussi l'engagement des jeunes, parce qu'on dit souvent que les jeunes, entre parenthèses, de banlieue, voilà, c'est des fouteurs de merde, ils s'engagent jamais. Alors que nous, tous les samedis, on est 25 bénévoles et on est obligé de recaler du monde parce que on essaie d'être organisé. Parce que d'être plein, ça sert à rien. Quand t'arrives dans le sans-abri et t'es déjà 10 autour de lui, il se sent pas à l'aise. Donc nous, on essaie vraiment d'être 25 chaque samedi, et les 25, on les divise par les 4 zones. Et donc ça revient à 6 bénévoles par zone.
Et alors, les sans-abri suscitent de la compassion en général en hiver, mais vous les aidez toute l'année, quelle que soit la saison.
C'est ça. En fait, on a l'impression qu'ils ont besoin de nous qu'en hiver, alors que même en été, ils ont besoin de nous. Et ça... Nous, voilà, on, en tant que personne lambda, on voit pas vraiment le besoin en été, mais en été aussi, ils ont vraiment besoin de nous, en fait. C'est pas que en hiver. En hiver, voilà, il y a le côté froid, il y a le côté, voilà, la pluie, l'hiver, tout ça. Mais en été aussi, ils ont besoin de nous. Et nous, oui, toute l'année, on est à disposition.
Qu'est-ce que ça vous a appris, je dirais, sur la société française, cette mission que vous accomplissez depuis 4 ans?
Franchement, ça, on gagne beaucoup d'humilité. Parce que vraiment on se mange vraiment des claques chaque samedi quand nous on se dit on a une doudoune à 200€, 300€, et même avec cette doudoune à 300€, on a un peu froid, et quand on retrouve ces personnes là dans des issues de secours, dans par terre à même le sol, qu'il y a des rats qui passent, on se dit en fait on a de la chance, mais on le remarque pas, en fait, on se rend pas compte. C'est un peu comme l'handicap. C'est une fois qu'on perd la vue ou autre qu'on se rend compte vraiment de la chance qu'on avait. Et là, nous, c'est ce côté-là aussi qui est ressorti. C'est se dire, en fait, on est très bien, nous, chez nous. Là, après, juste après la maraude, je vais rentrer chez moi sous ma couverture et je vais manger un burger ou ce qu'on veut. Et quand tu arrives dans ton lit, tu repenses un peu. Il y a plein de bénévoles qui me disent, mais en fait, c'est ouf. C'est ouf qu'il y a tant de monde dehors.
Zakaria Kedidi, président et fondateur de l'association Cité Solidaire 92. La campagne électorale a pris fin hier à minuit en France. Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule demain. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8h demain matin, fermeture à 19h, 20h dans les grandes villes. 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales. Il est recommandé de présenter une carte électorale au moment du vote, mais ce document n'est pas obligatoire. Il suffira d'une pièce d'identité pour voter. Attention, pas d'interview des candidats ou de publication de sondage. Le silence politique est de rigueur jusqu'à demain 20h. Le décès de Michel Delebarre, ancien député et ministre socialiste, bras droit de Pierre Mauroy. Il avait été maire de Dunkerque pendant 25 ans. Il est décédé à 75 ans. Michel Delebarre vivait dans un EHPAD très affaibli par un grave diabète. Un nouveau nuage de sable du Sahara devrait recouvrir la France à partir de mardi. Les quantités de sable s'annoncent assez importantes jusqu'au nord du pays. Enfin, football, l'équipe de France féminine a battu hier le Pays de Galles 2-1, un 7e succès en qualification qui devrait permettre aux Françaises de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. À midi et 18h demain, le journal en français présenté par François-Xavier de Calonne. N'oubliez pas les Tarawih tous les jours à minuit sur Radio-Orient pendant toute la durée du Ramadan. Retrouvez tous les podcasts de vos émissions sur radioorient.com. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.